faisant une recherche systématique sur l'immigration des habitants du canton d'Aisne sur les registres notariés des XVIIe et XVIIIe siècles, j'ai été étonné de trouver en 1686 une nouvelle destination jusque-là inconnue. Plusieurs familles du canton immigrent vers les vallées de Luzerne et de Saint-Martin dans le Piémont. À cette époque, les destinations habituelles vers le Piémont, quoique peu nombreuses dans le canton d'Aisne, sont plus particulièrement dirigées vers la vallée de Suse jusqu'à la ville de Turin. J'ai donc cherché à en savoir plus. C'est le début d'une enquête qui s'avérera difficile et longue, mais passionnante. En Savoie, mes recherches se sont concentrées sur Aisne et les environs, tandis qu'à Turin, elles sont réalisées sur l'ensemble du duché. J'en ai trouvé mention seulement chez quelques historiens et principalement ceux des vallées vaudoises ainsi qu'au musée de Pralie dans le Val-Germanesca. Henri Arnaud, pasteur et colonel des Vaudois, qu'on reparlera au cours de cette soirée, dans l'histoire de la glorieuse rentrée des Vaudois dans leur vallée. Théophile Ponce, dans la vie traditionnelle dans les vallées vaudoises du Piémont. Les vallées désormais abandonnées furent allouées aux catholiques qu'on a fait venir de la Savoie, de la Maurienne, de la Tarentaise, du Canavèse, de la vallée du Suze, de Vercelli et de toute la plaine du Pô. Je retourne toujours dans la glorieuse rentrée des Vaudois du Piémont, histoire d'un peuple héroïque, les colons savoyards qui s'y étaient établis 2 ans plus tôt. Vincent Minutoli, Raoul Blanchard, qui parle de « À peine quelques centaines de Savoyards amenés par le duc commencèrent-ils à repeupler les vallées désertes ?» Charles Lagile, Blanchard affirme que des milliers de Vaudois furent exilés et remplacés par quelques centaines de Savoyards. De quelle région ces Savoyards ? Le point serait intéressant à éclaircir. Roger De Vos, que j'avais oublié dans mon livre, j'avais sauté là, il en avait parlé un peu plus, La Savoie de la Réforme à la Révolution française, citant un courrier du président du Sénat, à la fin juillet, 848 familles sont parties ou inscrites pour le départ, dont 384 de Maurienne et 244 de Tarentaise, Faucigny, Genevois, etc. Ou André Paluel-Guillard, dans les Vaudois du Piémont entre la répression et la tolérance, parle du millier de Savoyards immigrés ici. Donc c'est très peu quand même comme renseignement, hein. Ça se résume à une phrase ou deux chacun. Le musée de Pralie, dans la vallée de Saint-Martin, dans les vallées vaudoises, en 1686, Victor Amédée II abolit la religion réformée sur ses terres et les Vaudois furent brutalement réprimés. La majeure partie d'entre eux mourut en combat ou en prison. Tous les temples furent rasés à la seule exception de celui de Pralie, parce qu'il était utilisé par les familles catholiques immigrées de la Savoie. Geoffroy Simcox, dans Victor Amédée II, nous parle de « Les terres furent confisquées et revendues à des colons catholiques qu'on fit venir d'autres parties du pays. » Donc lui, il ne mentionne même pas les Savoyards. Je vais visiter les vallées pour la première fois en mai 2009. À Torre Pellice, à la bibliothèque vaudoise, on me dit qu'il n'y a rien sur cette période. À Pralie, où je savais que des habitants du canton d'Aisne étaient installés, rien non plus en mairie. À Pignerolles, où j'archive diocésienne, rien non plus. Mais le responsable me dirige vers une personne ayant déjà fait des recherches à Pralie, M. Adolfo Serafino, en juillet 2009. Je lui envoie des courriers, il m'a répondu, donc. Il m'a donné les codes de ce qu'il avait cherché. En juillet 2009, je passe 2 jours aux archives d'État de Turin, où je prends de nombreuses photos. Retour dans les vallées en août 2009 et août 2010 pour mieux connaître les lieux. Je peux ainsi voir les registres paroissiaux de Pralie, qui malheureusement ne commencent qu'après 1700. En juin 2010, de nouveau 2 jours aux archives de Turin. Sans oublier les nombreuses recherches dans les minutes notariales du canton d'Aisne à Chambéry, où j'ai épluché une trentaine de registres de l'époque après les avoir photographiés. Situation géographique. Les vallées vaudoises sont situées sur le versant oriental des Alpes, dans la région du Piémont, en Italie. La chaîne de montagnes qui sépare les vallées piémontaises du Queyras français comprend au sud le mont Viseau, puis en remontant le mont Granero, le Grand Quéron, jusqu'au Brigniver. Tous ces sommets culminent à plus de 3000 mètres. Les cols à pied de Saint-Martin, de la Croix et de la Traversette vers le Queyras sont tous situés à plus de 2600 mètres. Au sud, nous trouvons la plaine du Pô, puis à l'est, la ville de Pignerol, à environ 30 km de Turin, et au nord, la vallée de Pragella ou du Chisone, depuis Sestrières, puis Pragelato jusqu'à Perosa Argentine. Trois vallées en font partie. La demi-vallée du Val Perosa, basse vallée en rive droite du Chisone ou Pragella, appelée Val Cluson en français. C'est ce qui est en rouge. Le Val Germanasca, à l'époque appelé Vallée de Saint-Martin, ce qui est en jaune. Le Val Pellich, ou Vallée de Luzerne, d'où part également une autre petite vallée, le Val d'Angrogne. Aux trois vallées se rajoute la côte de Saint-Segonde qui donne sur la plaine du Pô. On appelait aussi communément les vallées de Luzerne l'ensemble de ces vallées. Les Vaudois, donc Laurent vous en a déjà dit deux mots, ils n'ont rien à voir avec le pays de Vaud en Suisse. Ce sont les disciples de Pierre Valdo vers 1170-1180. Ils ont été appelés les pauvres du Christ ou les pauvres de Lyon. Ils ont reçu des persécutions des pouvoirs publics et religieux et ils ont adhéré à la réforme en 1532 et depuis gardent le nom d'église vaudoise. Situation politique. Lorsqu'il prend personnellement le pouvoir en 1684, à moins de 20 ans, après 9 années de régence effectuées par sa mère, Madame Royale, Victor Amédée II hérite à l'intérieur d'un État affaibli, déchiré par les cabales des aristocrates, les troubles paysans, et à l'extérieur assujetti aux exigences de Louis XIV. Sa première volonté est de rétablir les finances de l'État, ainsi que son armée, afin de se débarrasser de la domination étrangère et principalement de celle de la France, alors qu'il vient d'épouser une nièce du roi Soleil. Mais durant les premières années de son règne, il ne peut que ralentir les dépenses. Le 22 octobre 1685, Louis XIV révoque l'édit de Nantes. La persécution des protestants reprend, notamment en Dauphiné. Les liens étroits qui existent entre les Huguenots et leurs voisins vaudois du Piémont font que Louis XIV oblige Victor Amédée II à intervenir dans les vallées. D'autant plus que le Val Chisone et la bordure nord du Val Perosa appartiennent à la France, Pignerol compris, et le roi craint pour la sécurité de ses sujets. Comme on le voit ici sur le Théâtrum Sabaudier, donc les vallées vaudoises, ça forme une espèce de cœur, là. Donc la France est quasiment aux trois quarts. Donc le reste de l'État savoyard, c'est juste cette partie-là, la limite. De lui-même, le duc de Savoie ne serait pas intervenu, car les Vaudois sont de paisibles sujets qui payent leurs impôts sans menacer en rien l'ordre public, malgré les persécutions qui se sont succédées. La dernière en date, encore dans toutes les mémoires, est celle des Pâques piémontaises de 1655, il y a tout juste 30 ans. L'hostilité aux Vaudois était traditionnelle parmi les groupes pieux de la noblesse, et bien sûr parmi le clergé. Aussi, quand Louis XIV pressa Victor Amédée de lancer une nouvelle vague de persécution contre eux, l'opinion catholique dans l'État savoyard appuya fortement ses exigences. Après avoir résisté autant qu'il put, Victor Amédée II dut obtempérer sous peine de se voir confisquer les vallées que Louis XIV allait envahir. Le 31 janvier 1686, il abolit l'accord de Cavour de 1561 entre les États de Savoie et les Vaudois. Il s'ensuit une vague de persécutions, de massacres, d'emprisonnements. Il y a des milliers de morts, de nombreux déportés. La dernière offensive a lieu en mai 1686. 2000 Vaudois sont tués, 3000 se convertissent au catholicisme et 8500 emprisonnés. Au moment de leur libération en mars 1687, seulement 3841 survivants, ce qui fait presque 5000 morts en moins d'un an en prison. Sur 15 000 habitants avant 1685, il en reste 2500 au début 1686. Les Vaudois survivants sont chassés en Suisse en plusieurs convois. Le repeuplement des vallées. Le vide se fait dans les vallées, ce qui n'arrange pas les affaires financières de l'État savoyard. Les sources d'imposition de la région étant réduites à néant. Victor Amédée prend donc d'emblée des décisions énergiques. Les terres des Vaudois sont confisquées et revendues à des colons catholiques venus d'autres parties du pays. Monsieur de Bellegarde, président du Sénat de Savoie, à qui Victor Amédée a demandé conseil en avril 1686, ne souhaite pas le départ des Vaudois ni le remplacement de ceux-ci par des catholiques savoyards. Dans un long courrier adressé au duc de Savoie, il donne les raisons de son choix avec des arguments économiques, sociaux et religieux. Son courrier nous paraît presque le courrier d'un sage pour l'époque. Monsieur de Bellegarde ne sera donc pas suivi. Ce courrier, que je ne mentionne pas dans mon livre pour la bonne raison que je n'avais rien trouvé, Pierre Genelletti, président de la Société d'histoire de Maurienne, le donne dans une publication de la Cham parue en 2012. Il l'a découvert dans les archives de Berne en Suisse. Dès le début de l'été 1686, on cherche à faire venir des Savoyards pour repeupler les vallées devenues désertiques. Il semble que ce soit par l'intermédiaire de notaires que la chose se fait, comme nous le montre le document suivant trouvé dans les archives de la Chambre des comptes à Turin. Victor Amé, par la grâce de Dieu, duc de Savoie, prince de Piémont, roi de Chypre, etc. Nous certifions à tous ceux qu'il appartiendra à avoir agréé la proposition qu'ils nous ont faite, Barthélemy Bruet, notaire royal, et Gaspard Michaud du bourg de Saint-Maurice en Savoie, de faire venir du dit lieu une quantité de familles pour habiter et peupler un village de ceux de la vallée de Saint-Martin, et de nous assurer de la dite proposition dans une quinzaine de jours prochains, et que nous ouïrons très volontiers qu'il puisse avoir son effet, pourvu qu'il comparoisse devant nous avec l'autorité nécessaire, et que ce temps expiré, les villages de la dite vallée soient encore à disposer, et qu'il n'ait parti plus avantageux de celui qu'ils feront. De Turin, le 10 juillet 1686. C'est le seul document que j'ai trouvé en français aux archives de Turin concernant cet épisode. Tout le reste était en italien de l'époque. Dès le mois de juillet 1686, les Savoyards commencent à affluer. Plusieurs consignes ou relevés de chefs de famille présents dans les villages nous permettent de connaître les installations des Savoyards durant cette période de 3 années. Ces relevés, réalisés par les fonctionnaires de Turin, sont tous écrits en langue italienne. Bien que les vallées soient francophones, et l'arrivée des Savoyards n'y change rien. L'arrivée des premiers Savoyards. À partir du 18 juillet 1686, de nombreux contrats de vente ont été enregistrés en faveur des nouveaux arrivants. Ce jour-là, 2 actes sont signés, un pour la cession des terrains de Praly, nous en reparlerons, et le second pour la vente des terrains et maisons de Travers-Sébeauville. Dans ces 2 villages, quelques familles viennent de Saint-Pierre d'Albigny, des Bauges et une de l'Échaud, dans le Genevois. Le lendemain, ce sont 3 autres actes qui sont signés, dont 2 pour les biens de Villars dans la vallée de Luzerne. L'un de ces actes concerne pas moins de 87 acquéreurs, pas tous présents. D'autres actes concernent également Villars, puisque plus de 200 familles savoyardes vont s'y installer. À Rora, au-dessus de Luzerne, ce sont 28 familles ou individus qui font l'acquisition le 28 juillet 1686 pour 20 100 livres de biens, ce qui équivaut à plus de 30 000 florins. 3 000 livres doivent être payés à Noël prochain et le reste en 4 années. La mise à prix avait commencé bien plus bas et il est très probable que le prix finalement consenti est trop élevé par rapport à la réelle valeur des terrains, comme le signale Geoffroy Simcox. Vente souvent accompagnée d'une profitable spéculation pour les fonctionnaires concernés. Les acquéreurs sont venus de Sionzier, de Bramant, du marquisat de Thônes, de Manigaud, de la chapelle d'Abondance, de Termignon et d'autres lieux de Savoie non cités, ainsi qu'une personne de la Neuvalaise en Piémont. Mais également révérend messire Humbert, fils de feu François Roll, prêtre de Nancy-sur-Cluse. Mais ce dernier n'a pas dû s'installer, car je ne l'ai pas retrouvé plus tard. Il deviendra par la suite vicaire général et official de l'évêché d'Aos, d'après Gilbert Maître, dans l'émigration marchande savoyarde au XVIIe et XVIIIe siècle, l'exemple de Nancy-sur-Cluse, ouvrage publié par l'Académie salésienne. À Faito, la majorité des nouveaux habitants vient de Saint-Pierre d'Albigny ou des environs. Quelques-uns des Bauges ainsi que des environs d'Albertville, Marteau, Ugine. Deux familles viennent de Saint-Giraud dans le canton d'Albens. Le changement a dû être rude pour la plupart d'entre eux car Faito est situé au revers et le terrain est très pentu. Mais certains acheteurs ne sont ni plus ni moins que les agents immobiliers d'aujourd'hui. Le 6 octobre 1686, à la chapelle en Tarentaise, les chapelles, Don Aligeon revend une partie des terrains et maisons acquis dans la paroisse de Pramolles, pays de Luzerne, en Piémont. Sur un premier acte réalisé par maître Jean-Pierre Cléas, notaire à Findaille, paroisse de la chapelle, les quatre acquéreurs sont originaires de la paroisse de Notre-Dame de Pralognan. Il s'agit de Jacques Roland, Bastien Blanc, Antoine Blanc et Jean-Michel Roland. Ils font l'acquisition à eux quatre de 11% des biens acquis par le vendeur. C'est dire la quantité importante des lots acquis par celui-ci. Cette vente se fait pour la somme totale de 2848 florins de Savoie. Le paiement de cette forte somme se fera en 5 termes, le premier d'entre eux étant fixé à la prochaine venant, fête et solennité de Noël. Et se poursuivront à chaque fête de Noël jusqu'à plein paiement, à raison de 5% d'intérêt. Le même jour, Don Aligeon va à un autre lot, toujours à Pramolles, à François Rossaz, de Conseil, paroisse de Bellantre. Cette fois, la vente est faite pour la somme de 13 pistoles d'Espagne, valant 21 florins pièce, ce qui nous donne la somme de 273 florins de Savoie. Le lot est donc bien moins important que les précédents. 3 jours plus tard, le 9 octobre, il cède encore des biens à Louis Ligeon, son frère. Il lui laisse le soin de choisir sa maison sur place. Il payera en rapport aux biens achetés. Don Aligeon est associé dans son affaire avec maître André Grumel, notaire de la chapelle. Ce jour-là, maître Grumel signe une procuration en faveur de Don Aligeon pour faire, agir, négocier au nom du dit maître Grumel pendant son absence sur leurs biens et associations entre eux faites, visant leur pache. Le pache, c'est un accord qu'ils ont fait. Le 31 janvier suivant, on apprend que l'achat réalisé par Louis Ligeon se monte à 400 florins. L'acte d'acquisition a été signé le 4 décembre dernier, reçu par maître Jean-François Didon, notaire royal de la chapelle. Comme notaire, Jean-François Didon est chargé par Don Aligeon et maître Grumel de recevoir les actes des ventes, de vente des différents lots à Pramolo. Il est donc allé sur place pour cela. Il a ainsi réalisé 31 actes pour le compte des deux associés, dont bien sûr celui de Louis Ligeon ci-dessus. Du 21 au 30 décembre 1687, Don Aligeon de la dite chapelle, demeurant à la paroisse de Pramolles en Luzerne, fait réaliser 9 actes notariés par maître Jean-Pierre Cléas à la chapelle. Il vend une grande quantité de biens à la chapelle, tout en se gardant un pied à terre. Tout cela pour d'importantes sommes dont il est redevable à plusieurs personnes de Bourg, M et Moutier. Il avait probablement prêté ces sommes pour les acquisitions en Piémont. Les Prales dans la vallée de Saint-Martin. Le cas de Prali ou les Prales à l'époque, au fond de la vallée de Saint-Martin, est assez particulier. On rejoint cette paroisse par une vallée étroite et encaissée dans la forêt. Cette communauté est constituée de 2 villages principaux. Villa, à 1400 mètres, et 2 kilomètres plus loin, Guigo, à 1450 mètres. tous deux en fond de vallée sur la rive droite du Germanasca. La rive gauche du torrent est très exposée aux avalanches, bien qu'on y trouve de petits hameaux coincés entre de vertigineux couloirs. Le 15 juillet 1686, trois Savoyards adressent une supplique à son Altesse royale, Victor Amédée II. Il s'agit de Jean, fils de Balthazar Placiard, syndic du quartier de la Côte d'Aime en Tarentaise. Étienne de feu Pierre Cornu de la paroisse de Valoire en Maurienne. Et Jean-François de feu Denis Bérard Bergerie d'Aime en Tarentaise. Jean Placiard signe le document avec une écriture bâton qui montre bien que ce sont les seuls mots qu'il sait écrire. Et les deux autres ont fait leur marque pour ne savoir écrire. Ce document n'a pas été facile à traduire parce que l'écriture. Il demande à son Altesse royale de pouvoir offrir à 80 familles de Savoie la possibilité d'habiter et d'occuper totalement le lieu de Praly afin de le revaloriser si son Altesse royale veut bien leur laisser gracieusement tous les biens laissés à l'abandon par le départ des religionnaires. Ils promettent de prendre à leur charge la construction de l'église et des chapelles rurales nécessaires et de pourvoir à la subsistance du curé et des chapelains que son Altesse voudra bien leur accorder s'ils daignent leur donner gracieusement les biens. Ils promettent d'introduire les familles d'ici un mois pour les deux tiers et l'autre tiers dans le mois suivant. Ils promettent également de payer les charges ducales et militaires et prient son Altesse royale de bien vouloir autoriser le port d'armes pour se protéger des risques des vallées. Il s'agit de se défendre des derniers Vaudois qui sont à ce moment-là encore réfugiés dans les montagnes, trois nouveaux habitants ayant déjà été tués à Bobbio. Trois jours plus tard, le 18 juillet, l'acte de vente avec nos trois Savoyards est signé. L'acte commence par nous donner les raisons de cette vente. Par suite du retour fait des biens, droits et actions des hommes professant la prétendue religion réformée, anciens habitants dans les lieux de la présente vallée de Luzerne, en raison du crime notoire de rébellion commis par eux, dont dans le manifeste de son Altesse royale, du 26 du mois de mai passé, entériné par les Sénats et Chambres les 29 du 10 mois, affichage des billets faits dans toutes les cités et terres de Saint-Démond et au-delà des cols, pour la notification de la vente des biens anciennement possédés par les sudis religionnaires. Ils font l'acquisition, tant à leur nom que des divers particuliers qu'ils choisiront pour s'établir à Praly, de tous les biens dévolus au fisc par le manifeste du 26 mai dernier, avec les édifices, maisons, etc. Les acquéreurs profitent également des droits ancestraux liés au lieu, comme la participation dans les pâturages, biens, alpages et droits communaux. Pour cela, les Tarrais et Mauriennais n'ont rien à débourser, sauf leur participation aux frais de l'acte et de son exécution pour la distribution des biens et des maisons aux nouveaux arrivants. En revanche, ils sont soumis à bien d'autres obligations comme impôts, taxes, militaires ou ducales. Ils doivent également rembourser les dettes antérieures du village et des anciens habitants des Prales. Ça, c'est pas un cadeau, ça. Ils devront également amener le bétail de Savoie avec eux, ainsi que toutes choses utiles, outils, semences, etc. Enfin, pour la bonne compréhension des contractants, l'acte écrit en italien a été expliqué dans la langue française. À Salza et Macello, deux autres villages de la haute vallée de Saint-Martin, les biens ont également été donnés. On y trouve des Mauriennais de Saint-Jean-d'Arve, de Valoire, de Saint-Michel. 14 familles de Marteau se sont installées à Macello. De plus, des Piémontais de la région du Canavese au nord de Turin y ont aussi acquis des biens. Le fait que Praly, Salza et Macello soient éloignés et en altitude et qu'il y manque beaucoup de monde a certainement joué en faveur des Savoyards. D'autant plus qu'il n'y avait pas d'autres candidats. Le 5 octobre 1686, sur le relevé des habitants de la vallée de Saint-Martin, 31 familles de Tarentaise ainsi que 29 de Maurienne sont inscrites à Praly. Certaines personnes sont venues seules. Venues seules sont reparties chercher leur famille ou ne viendront qu'à Pâques prochaine, c'est-à-dire au printemps 1687. Les Tarrains et Mauriennais se sont donc partagés les biens délaissés par le départ des Vaudois. Le relevé du 13 août 1687 nous renseigne un peu plus sur cette singulière cohabitation. Les Mauriennais sont tous domiciliés à Villa, tandis que les Tarrains sont à Guigues. Chacun de son côté et tout ira pour le mieux. La quasi-totalité des Tarrains vient du canton d'Aisne, à l'exception d'une famille de Notre-Dame-du-Pré et une de Saint-Laurent-de-la-Côte. Les Mauriennais viennent de Valloire pour la plupart, ainsi que de Saint-Michel, Valmeignier et La Chapelle, et il y a 9 familles mauriennaises sans origine. Donc voilà, fin 1686, le nombre de chefs de famille venus de Savoie qui sont présents dans les vallées. Donc ce qui fait déjà un total de 389 familles pour 1627 personnes. Les arrivants non savoyards viennent de la vallée de Suse, de la vallée d'Andorno, entre le Val d'Aoste et le Val Sesia, du Canavese et de l'Anzo, au nord de Turin, de paroisses situées entre Turin et Pignerolles, mais également de la plaine du Pô, au sud des vallées. Pour les Savoyards, nous trouvons un gros contingent de Tarrains, de Mauriennais, de gens de Saint-Pierre-d'Albigny, 28 familles, ou des environs, mais aussi quelques familles du Faucigny, Genevois et Chablais. Pour les Tarrains, le canton d'Aisne est largement en tête avec près de 70 familles qui vont s'installer dans les vallées, pour la grande majorité à Pralie. Pour les cantons de Bozelle et Moutier réunis, cela fait au moins 48 familles concernées et 203 personnes. En Maurienne, pour le canton de Saint-Michel, elles sont encore plus nombreuses. Pour la seule paroisse de Valloire, cela concerne au moins 35 familles, soit 159 personnes. Là, le total des familles par province, c'est à peu près, quoi. J'ai pris à peu près la Tarentaise comme c'est actuellement, en comptant le Beaufortin, Val d'Arly, et puis un peu plus bas qu'Albertville, quoi. C'est difficile à faire les zones. Et puis il y a quand même 70 familles où c'est marqué uniquement Savoie, donc je ne sais pas d'où ils viennent. Et d'autres 112 qui viennent du duché, mais je ne sais pas non plus. Quoi. Donc, ce qui fait un total de 719 familles. Ça, c'est le total que je suis arrivé à trouver dans mes recherches. Une première année difficile. En 1687, rien ne facilite les choses pour les nouveaux habitants des vallées. Certains d'entre eux ont semé trop tard. Surtout ceux dont les familles ne sont arrivées qu'au printemps 1687. De plus, ils ont semé les mêmes céréales qu'ils avaient l'habitude de mettre en Savoie. Or, elles ne sont pas adaptées à la région. Il aurait fallu, mais certainement personne ne les en avait avertis, du vieux grain ou du marsachi, céréales habituellement utilisées dans les vallées. De plus, l'année 1687 fut une année de sécheresse, si bien que la plupart des Savoyards n'avaient pas de quoi nourrir leur famille durant l'hiver suivant, sans compter bien sûr le nécessaire pour les semailles futures. De nouveaux relevés des habitants sont donc réalisés, dont celui du 13 août 1687, qui donne un état des habitants et du bétail à Pralie, Macello et Faeto, dans la vallée de Saint-Martin. La majorité des propriétaires possèdent de 1 à 3 vaches, parfois plus, mais quelquefois aucune. Jean Ibor, 30 ans, de Saint-Martin-de-Belleville, a 3 vaches, 2 chèvres et 3 brebis. Sa famille se compose de Jeanne, sa femme, 30 ans, et 3 enfants, de 7 ans à 4 mois. Joseph, Jacquemette et François. Étienne Allégrade d'Avrieux possède 6 vaches, 2 chèvres ainsi qu'un âne. Il a également un domestique et une servante. Mais lui-même est qualifié de paresseux qui n'est pas la moitié du temps à la maison. C'est là que nous voyons que tous sont surveillés de très près par Jean-Jacques Martin, le châtelain des vallées, qui a effectué ce relevé. La réputation des émigrés savoyards, connus pour être travailleurs infatigables, est bien mise à mal. Beaucoup sont qualifiés de paresseux, fatigants, pénibles. Mais heureusement, il y a aussi les bons élèves. Pierre Chabert de Bonvillard est très bien incliné au travail, à Michel. Claude Bochon de Marteau est compétent au travail. Il est fort probable que le châtelain, pressé par l'administration turinoise, force un peu, car les impôts ne rentrent pas. Mais comment peut-il en être autrement en cette année 1687, lorsque l'année est mauvaise, une partie des Savoyards n'est arrivée qu'au printemps, les maisons sont probablement en piteux état, il faut reconnaître les parcelles de terrain de chacun et les travaux à faire pour le bien commun. Dans la vallée de Saint-Martin, le père Capucin Ambrosio, chargé par le duc de s'occuper du problème, estime le nombre de bovins nécessaires à 331 bêtes pour que les habitants puissent vivre correctement et aient assez d'engrais pour les champs, alors qu'il y a déjà 599 vaches. Les habitants possèdent 2643 bêtes laineuses et il en faudrait encore 764 pour cette seule vallée de Saint-Martin. Le 28 octobre 1687, une première distribution de 50 bovins a lieu et 400 moutons doivent arriver. Une grande quantité de foin est également nécessaire pour passer l'hiver. Le 26 janvier 1688, par un acte extrêmement compliqué et dont la traduction l'a été tout autant, Victor Amédée II accorde des réductions et reports d'impôts à ses sujets, nouveaux habitants des vallées. La nouvelle Savoie de l'Allemont. En juin 1687, Nicolas Vallée-Bérase, installé à Pralie avec sa famille depuis l'automne précédent, est de retour à Montvalzan-sur-Bellentre pour quelques jours. Ayant besoin d'argent pour son installation dans les vallées, il a décidé de vendre son bien. Le 15 juin, il vend sa part d'héritage sur une montagne au lieu-dit Le Col, à Jean-Baptiste Pélissier-Bal, pour 100 florins de Savoie. Le même jour, il vend deux autres pièces de pré pour 50 florins à François Glatigny. Le 16 puis le 18 juin, Nicolas réalise encore trois ventes de pré, terre, vignes, bois pour un total de 140 florins. C'est donc avec 290 florins en poche qu'il va retourner dans la vallée de Saint-Martin, à moins qu'il n'ait eu quelques dettes à rembourser comme la plupart des partants dans les vallées. Ces cinq contrats de vente sont tous réalisés par Maître André Morard-Blanc, notaire de Montvalzan. Celui-ci mentionne sur ses actes le lieu d'habitation de notre émigré. Nicolas, fils de feu André Vallée-Bérase, de Montvalzan-sur-Bellentre, habitant de présent pour satisfaire de son petit pouvoir aux bons desseins et pieuses intentions de Son Altesse royale dans les vallées et pays de Luzerne, appelée à présent la nouvelle Savoie de l'Allemont, comme a été dit. Cette simple phrase nous donne l'importance du phénomène, moins d'un an après le départ des premiers Savoyards. Retour en Savoie pour certains. Je ne sais pas si Jean Placière a passé le premier hiver à Pralie. Toujours est-il qu'il est en Savoie en juin 1687 et qu'il ne retournera probablement pas dans les vallées. Est-il seulement venu pour l'installation de ses concitoyens? Y a-t-il une autre raison? Le mystère ne sera sans doute pas élucidé. Jacques Ruffier-Gonnet de Pierrolaz, paroisse d'Aisne, est revenu en Savoie en 1687, après avoir laissé sa maison à Pralie en charge à son gendre. Il était venu dans la vallée de Saint-Martin avec seulement deux filles, sa femme et le reste de la famille n'ayant pas voulu quitter leur lieu de naissance, ce qui l'a donc obligé de revenir en Tarentaise. Une des filles, Michèle, se marie à M le 14 mai 1687 avec Antoine Buteau-Georgat, également émigré à Pralie. Le 1er juillet, c'est au tour de Claude, une autre de ses filles d'épouser à M également Maurice Garçon, natif de Pézet, pelletier de profession à M. Pelletier, c'est quelqu'un qui travaille les pots. Celui-ci s'est aussi installé à Pralie après le départ de sa première épouse. Les allées et venues entre la Tarentaise et les vallées ne semblent pas les gêner beaucoup. Anne, une troisième fille de Jacques Ruffier, va épouser, probablement à Pralie, Jacques Buteau-Georgat de Pierrolaz. Je n'en ai pas la preuve, les registres paroissiaux que j'ai pu consulter dans l'église de Pralie ne débutent qu'après 1700. Le 24 juin 1688, Jacques Ruffier passe devant le notaire Jean-Baptiste Crozat à Aisne. Il donne procuration à Maurice Garçon, son beau-fils, pour procéder au partage des biens et bâtiments qu'il possède dans la paroisse de Prales, en indivision avec Étienne Vaudry de Notre-Dame-du-Pré. Michel Bailly, 19 ans, natif de Montméry, paroisse d'Aisne, fils d'un fruitier suisse de Montbovon dans la Gruyère, du canton de Fribourg, est venu à Prailly avec son épouse où il est classé comme paresseux. Le 8 octobre 1687, à M, il vend ses biens à Prales à Michel Durand, maître maçon et charpentier de la paroisse de Naves, pour 180 florins de Savoie. Toutefois, une réserve est faite dans le cas où l'acheteur ne trouve pas les biens à son goût. En ce cas, la vente est annulée. C'est ce qui a probablement dû arriver car je n'ai trouvé aucune trace de Michel Durand à Prailly, ni dans les vallées. Par contre, Michel Bailly et sa femme sont toujours présents en 1689. Ils n'ont plus aucun bien propre ni bétail, ils ne savent pas où aller. Ils n'avaient qu'une chèvre en 1687, ce qui est bien peu pour vivre. L'embellissement de l'église des Prales. À Prailly, suivant l'accord convenu entre Jean Placiard et ses collègues d'une part et Son Altesse Royale d'autre part, les Savoyards ont construit une chapelle à Villa. Comme église à Guigot, ils ont réutilisé l'ancien temple vaudois construit en 1556, le seul temple des vallées n'ayant pas été détruit par les armées de Louis XIV ou de Victor Amédée II. Le 8 juillet 1689, le curé de Prailly reçoit à Pereire, des mains du sieur comte et intendant Frugignone, divers habits et mobiliers pour l'église et la chapelle de Prailly. Il perçoit ainsi un tabernacle de bois sculpté, peint et doré, quatre chandeliers peints et profilés d'or, une image de gloire avec la corniche peinte et profilée d'or, deux pots d'étain pour les jours de baptême, un autre pot d'étain pour les jours saints des malades, une bourse damassée de diverses couleurs pour les huiles saintes, un contraltar d'étoffe à fleurs de diverses couleurs. C'est un devant d'autel ou antependium. Une aube de toile blanche avec ses dentelles aux manches et au fond, avec un cordon de fil blanc. Un surplis de toile blanche avec ses dentelles. Deux mantilles de toile de lion de 6,5 razzis de long chacune. Deux amis de toile blanche, linge qui couvre l'épaule du prêtre sous l'aube. Une croix pour l'autel peinte et profilée d'or. Une chape de satin à fleurs de diverses couleurs. Tous ces objets fournis par Son Altesse Royale dans sa grande bonté et selon sa promesse sont surtout un cadeau bien calculé de la part de Victor Amédée II et de ses fonctionnaires. Il valait beaucoup mieux faire un présent qui allait donner de l'ardeur à la population que de la laisser sombrer dans l'oisiveté. Le retour sur investissement se fera d'autant mieux et plus vite. La glorieuse rentrée des Vaudois. En Suisse, les Vaudois exilés ont bien vite le mal du pays. Ils projettent rapidement d'y retourner. Après deux essais qui échouent en 1687 et 1688, les préparatifs pour une troisième tentative se font dans le plus grand secret. Ce retour dans les vallées débute dans la nuit du 26 août 1689, à Prangin, sur la rive nord du lac Léman. Là, une troupe d'environ 1 000 hommes, composée de Vaudois, mais également de Suisses et de Huguenots du Languedoc et du Dauphiné, venus prêter main-forte à leurs compagnons, traverse le lac jusqu'à Ivoire. Puis s'ensuit une course effrénée afin d'éviter les armées françaises et savoyardes, durant leur périple jusque dans leurs vallées d'origine. Ces hommes, tous vêtus de drap gris-blanc, avec des chapeaux bordés, armés d'épées, baïonnettes et fusils, portaient chacun une charge supérieure à 50 livres. À chaque localité, des otages sont pris parmi les notables, si bien que tout se passe le mieux possible pour cette troupe, pour le moins atypique, qui sème la crainte tout le long du voyage. Elle arrive en Tarentaise par le col du Bonhomme, avec de la neige jusqu'aux genoux. Le village de C lui fournit du pain en grande quantité et elle poursuit son chemin par Val d'Isère puis la Maurienne, où les Bessanais sont un peu plus arrogants vis-à-vis des Vaudois. Ils en seront quittes à devoir laisser leur mulet à la troupe après le pillage du village. Le convoi emprunte le col du Petit-Montcenis, puis rejoint la vallée de Suse, où un combat a lieu sur le pont de Saint-Bertrand avec un détachement français au bénéfice des Vaudois, mais avec de lourdes pertes des deux côtés. Le terme de glorieuse rentée est employé par le pasteur Henri Arnaud, chef du convoi lui-même, dans son récit sur le retour des Vaudois dans leur vallée, paru en 1710, se référant à la glorieuse révolution de Guillaume d'Orange, nouveau roi d'Angleterre, après avoir renversé Jacques II le catholique à la fin 1688. Les récits relatant le passage des Vaudois en Savoie lors de la glorieuse rentrée sont nombreux, c'est pourquoi je ne m'y attarde pas. Le calvaire pour les Savoyards est la fuite des vallées. Le mercredi 7 septembre, 12e journée de leur périple, après la nuit passée à la Balsille, premier village de la vallée de Saint-Martin, les Vaudois souhaitent rejoindre Praly en se partageant en deux groupes. Ceux qui passent par Rodoret trouvent cinq Savoyards qui y résident, et après les avoir fait parler sur le lieu de stationnement du marquis de Parella, commandant des troupes ducales, ils les tuent. Arrivés à Praly, ils mettent le feu à la nouvelle chapelle, construite depuis peu de temps pour les marionnettes à Villa, et retrouvent leur temple à Guigo, le seul de toutes les vallées n'ayant pas été détruit par les armées. Celui-ci, comme nous l'avons déjà vu, a été transformé en église par les Savoyards. Après l'avoir vidé de tous les objets servant au culte catholique, et notamment ceux offerts par Son Altesse Royale depuis 2 mois seulement, ils purent organiser leur premier service religieux réformé sur la terre d'où ils avaient été chassés plus de 3 ans auparavant. Dans son récit, le pasteur Arnaud ne fait aucune allusion aux habitants d'Épral lors de son arrivée sur place. Georges Tourne, un autre historien vaudois, nous renseigne un peu. La combe d'Épral que les habitants venaient d'abandonner pour suivre les troupes de Marolles leur offrit ses maisons intactes, des vivres en abondance, le blé à peine moissonné. Bref, hospitalité et réconfort pendant 2 jours. Les jours suivants, les escarmouches se poursuivent et de nombreux paysans en font les frais. Le 10 septembre, Bobbio dans la vallée de Luzerne est pillé et saccagé par les Vaudois alors que les habitants se sont sauvés avant leur arrivée. Le 12 septembre, ils attaquent Villars et incendient quelques maisons, si l'on en croit le pasteur Arnaud. Mais une consigne non datée de Villars nous donne un grand nombre de maisons brûlées. À la fin septembre, un détachement de 44 Vaudois se rend à Rora et y tue plus de 30 personnes, tant hommes que femmes, qui se sauvoient. Une femme fut épargnée parce qu'elle avait 4 ou 5 enfants. On renversa l'église, on brûla toutes les maisons. Le détachement repart avec 28 vaches et environ 20 brebis ou chèvres. En faisant le décompte entre les différentes consignes, je trouve 12 Savoyards habitant Rora qui sont probablement décédés dans les vallées. Seuls pour 5 d'entre eux, la mort est explicitement attribuée aux Barbets. Il s'agit de Jean Bonnet-Rosa de Tarentaise, qui laisse à son épouse 3 enfants en bas âge. Michel Emmanuel de Villars en Savoie, laissant sa femme de 22 ans avec un fils de 7 ans. Et Pierre Garin de Bramant, qui a été tué avec ses 2 fils majeurs. Son épouse reste seule avec une fille de 12 ans et un fils de 10 ans. Il est possible que des familles complètes aient été décimées et elles ne sont donc pas citées. Les consignes réalisées ne nous renseignent donc pas sur tout et sont très incomplètes. Malgré leurs déboires, la misère extrême dans laquelle ils doivent être, la majorité des nouveaux habitants des vallées souhaitent y retourner, selon les consignes de fin 1689. Certaines femmes ne sont pas en mesure de répondre, le mari étant absent. Françoise, femme d'Étienne Varnier de Termignon, ira où voudra son Altesse. André, femme de André Méralet de Termignon également, ne veut pas retourner en Savoie quand son père lui a donné sa part. Sa part d'héritage, et puis elle l'avait déjà ramenée là-bas, donc elle n'a plus rien. Et les parents et amis sont pauvres. Françoise, femme de François Bogerano de Pralognan, veut retourner à Turin avec ses parents et amis pour vendre des fromages et autre chose. À Praly, les femmes se sont donné le mot car elles veulent aller où plaira à son Altesse, ou bien aller où plaira à Dieu et à son Altesse. Avec ces quelques mots, on voit l'extrême détresse et résignation de ces femmes qui ne savent plus quoi faire ni où aller. Les hommes sont soit enrôlés dans les troupes et milices de Victorin Amédée II pour la plupart, soit ils essayent très probablement de garder leurs maisons et leurs biens dans les vallées, ou de récupérer ce qu'ils peuvent au risque de se faire tuer par les barbets. Ce qui ne manque pas d'arriver en voyant l'énumération des morts. À Pramolo, Barthélemy Mollaret de Moron en Maurienne est tué au début de la manœuvre de guerre de religion. Nicolas Vial et un de ses enfants, de Moron également, sont assassinés par les religionnaires. Balthazar Blanc de Pralognan est tué par les religionnaires des Vallées dans la prison de guerre. À Praly, Jean Falco de Valoir est tué à la guerre des rebelles. François Souvy de Valoir également a aussi été tué. À tout cela, nous pouvons également ajouter une bonne partie des morts sans aucune indication, mais aussi tous ceux qui se sont fait tuer après les deux relevés susmentionnés. Plusieurs hommes du canton d'Ems sont signalés comme morts ou tués dans divers actes en Savoie, alors qu'ils sont encore mentionnés vivants sur cette dernière relevée. La paix de Victor Amédée avec les Vaudois. Là, on voit une carte des états du duché de Milan et des états du duc de Savoie à l'époque, et pour bien montrer l'importance des vallées vaudoises. Les vallées ont été reprises en plus grand sur le côté. Durant l'hiver 1689-1690, les Vaudois se sont retranchés à la Balcie dans la vallée de Saint-Martin pour passer l'hiver. Ils vont survivre grâce aux vivres et bétail abandonnés par les colons après leur fuite, et même en moissonnant les blés qui sont restés sous la neige, ramassant les châtaignes. Le 2 mai, les forces savoyardes et françaises attaquent la Balcie mais sont repoussées avec de lourdes pertes. Le marquis de Feuquières, général français en charge d'une nouvelle attaque après l'échec de Catina, passe à l'action le 24 mai. Cette fois, les Vaudois sont débordés, mais doivent leur survie grâce à un épais brouillard qui leur permet de s'échapper. Le 27 mai, un détachement de barbets à la recherche de nourriture en direction d'Angrogne apprend qu'il y a du bétail à Pramol, où il semble que les habitants soient encore là. Effectivement, ils ramènent des vaches, des chèvres et des moutons de la Rua, chef-lieu de la paroisse. Mais ils attaquent également les habitants et les soldats retranchés dans le cimetière et l'église. Monsieur de Vigneault, qui commande les militaires, est fait prisonnier. Le village est brûlé. 57 personnes militaires et civiles sont tuées. Parmi ceux-ci, il est très probable qu'il y ait un bon nombre de Savoyards. Mais depuis quelque temps déjà, Victor Amédée II essaye de trouver un accord avec les forces ennemies de la France. Un extrait de la correspondance de cour et des généraux pendant la campagne d'Italie en Piémont et en Savoie par M. de Catina, lieutenant général des armées du roi, aux archives militaires de Vincennes, nous livre la vision des Français. Peu de temps après l'arrivée des troupes du roi à Pignerolles, on commença à s'apercevoir que M. le duc de Savoie, lorsqu'il fut question de faire des dispositions et de donner des ordres pour marcher contre les révoltés, et toi dans l'intention de les ménager plutôt que de contribuer aux moyens de les soumettre. Et successivement, on fut informé de la promesse qu'il avait faite au comte de Fuenzalda, gouverneur du Milanais pour le roi d'Espagne, d'empêcher leur destruction et de la correspondance intime qu'il entretenait avec le prince d'Orange et les ennemis du roi. On sut même qu'il s'agissait d'un traité pour quelque entreprise importante contre la France. En effet, le 28 mai, les envoyés de Victor Amédée signent une trêve avec les Vaudois rescapés. Le 3 juin, ils signent un traité avec le comte Fuenzalda, gouverneur espagnol de Milan, et le lendemain avec les envoyés de l'empereur. La guerre est donc déclarée contre la France. Cela signifie pour les Savoyards la fin de l'espoir de retour dans les villages des vallées. Ils sont donc contraints de revenir en Savoie si ce n'est déjà fait, ou de trouver une nouvelle terre d'accueil. La nouvelle Savoie de l'Allemand a cessé d'exister. Et les Savoyards dans tout ça. Plus de 3 ans après l'arrivée des premiers Savoyards, ceux-ci semblaient enfin bien installés. Les années 1688 et 1689, jusqu'à l'arrivée des Vaudois, se sont probablement bien mieux passées que l'année précédente. Les aides de l'administration ont dû faire du bien aux nouveaux habitants, mais ce sont certainement de bonnes conditions climatiques, une installation améliorée par rapport à la première année, ainsi qu'une meilleure connaissance des lieux qui ont dû remonter le moral des Tarins, Mauriennaises et autres Savoyards. Pour preuve, les nombreuses mentions des caves pleines de fromage, granges et greniers remplis de fourrage et de victuailles que nous donnent Henri Arnaud et Vincent Minutoli. Malgré les incendies, destructions et autres méfaits, les 400 Vaudois purent vivre tout l'hiver avec toutes les denrées produites et animaux élevés par les nouveaux habitants. J'ai pu identifier près de 2 800 hommes, femmes et enfants savoyards venus dans les vallées, soit plus de 700 foyers. En réalité, il y a certainement eu plus de 3 000 personnes, bien qu'un certain nombre d'entre eux ne soient pas restés longtemps dans les vallées. Le chiffre est bien plus important que ne le laissent croire les textes d'origine vaudoise. En faisant le total des deux dernières consignes des habitants à la fin 1689, j'arrive à un chiffre de 1579 Savoyards, dont 64 décédés dans les vallées et 146 enfants nés dans les vallées, en comptant tous ceux de 3 ans et moins. 38 familles sont dans les deux consignes, soit environ 180 personnes. Il nous reste donc 1399 Savoyards. Ce chiffre est à mon sens bien inférieur à la réalité. La mémoire des nouveaux habitants dans la côte de Pramolo du 16 octobre 1689 nous donne 296 habitants pour 66 feux, dont 40 naissances à Pramolo et 6 décès. Ces familles sont en grande majorité savoyardes. Or, 11 familles savoyardes, soit 58 personnes présentes dans ce mémoire, ne sont pas mentionnées dans les consignes après la fuite des vallées. On peut très bien penser qu'il en est de même pour la majorité des villages. La réalité semble plus proche de 1600 à 2000 savoyards au plus que de 1389 comme calculé. Que sont-ils devenus? L'exemple du canton d'Aisne. Le 27 août 1690, la Claudasse Claret fait un codicille par devant maître Jean-Benoît, notaire à Aisne. Elle est dite veuve de Jacques Duchosal Batandier, décédé au pays de Luzerne. Jacques Duchosal n'est pas noté décédé sur le relevé de fin 1689. Il est donc mort ou tué durant l'hiver. Son épouse nomme comme héritier universel Jacques et Michel, deux fils d'un premier mariage de son mari. Cela signifie donc que son fils François, né en Tarentaise en 1686, ainsi qu'un second fils né sans doute à Pralis, sont tous deux décédés en Piémont. Jacques, actuellement hors du pays, ne sera héritier que s'il revient en Savoie. Le 18 décembre 1696, c'est au tour de Marie Coster, détenue au lit de maladie corporelle, de faire un codicille. Veuve d'Aimé Varsin-Miège du Villard, paroisse d'Aisne, aujourd'hui hameau de la Côte d'Aisne, c'est donc Joseph, son fils aîné, qui à 22 ans avait la responsabilité de la famille lors du départ pour les vallées. Elle demande à ses autres enfants de ne pas tenir rigueur à leur frère aîné de tout ce qu'ils ont perdu dans les vallées de Luzerne, sous peine de les déshériter. Jean Chevret, natif de Montméry, est revenu en Savoie avec sa famille. Son épouse, Michelette Bérard-Bergerie, est sans doute décédée en Piémont, où ils ont eu la naissance d'un enfant. Jean se remarie à Aisne le 11 avril 1690. Jean-François Bérard-Bergerie, un des signataires de l'acte d'acquisition des biens de Pralis, a dû s'en sortir. Il est probablement décédé avant 1710 comme marchand en Franche-Comté. J'ai trouvé il y a très peu de temps. Les filles et beaux-fils de Jacques Ruffier-Gonnet sont revenus. Seule sa fille Claude est décédée avant le 9 février 1691. Maurice Garçon est décédé à Aisne cette même année. Georges Buteau-Chabot, frère de Jacques Chabot, notaire à Aisne, avec sa femme et ses 4 enfants, sont encore présents dans le dernier relevé en Piémont. Mais je n'ai aucune trace d'eux depuis. Alexandre Sorel de Granier et son fils Maurice sont tous deux décédés dans les vallées, après les deux consignes de fin 1689. Alexandre est encore venu à Granier fin juillet, début août 1689. Il est donc retourné à Pralis juste avant le retour des Vaudois. Antoinette Fatet, sa femme, native des Chapelles, décède à Granier en 1696. Maurice Dunant n'est pas revenu des vallées. Son épouse Gaspard Costaz décède à Aisne en 1692. Pierre Dunant, fils de Maurice, s'est probablement marié à Pralis avec Barbe Sorel, la sœur de Maurice. Ils ont un fils Maxime né à Granier en 1701. Martin Pocarmatet de Granier également s'est marié à Praly avec Pernette Merelle-Vévoz, native de Mâcon. Jacques et Georges, leur premier enfant, sont sans aucun doute nés à Praly. Toute la famille revient à Granier où il y aura quatre autres naissances. Jean-Baptiste Chenal de Granier également est probablement décédé dans les vallées, mais je ne trouve pas ce qu'il advient de sa famille, si ce n'est que deux enfants habitant à Verceil en Piémont en 1701 sont présents à Granier cette année-là pour vendre une pièce de terre. Jacquemette de la Vie, la veuve d'Antoine Merelle-Vévoz, remariée avec Philippe Grille, un ancien vaudois, est décédée avant le 12 novembre 1700, date où Pierre de la Vie, son père, fait son testament par devant maître Jean-Benoît Ahem. C'est probablement ce même Philippe Grille de Praly qui a eu une fille baptisée à Saint-Laurent-de-la-Côte, hors mariage avec Barbe Relier des Avanchers le 17 février 1698. Marie Maurice, native de Granier, est dite veuve de Claude Seulier de Montgiraud le 24 février 1691, dans un acte reçu par maître Évrard, notaire à Granier. Ils étaient tous deux domiciliés à La Tour en 1688. François Rosace de Bellante a toujours hors du pays en 1691. Comme nous le voyons, une bonne partie des familles, ou ce qu'il en reste, est revenue en Savoie. Pour toutes les autres, la question reste posée. Que sont-elles devenues? Vu le nombre de décès dans les vallées que j'ai pu relever sur M après les consignes de fin 1689, on peut supposer que sur l'ensemble des Savoyards, celui-ci est très important. Les Vaudois aujourd'hui. Aujourd'hui, les Vaudois sont toujours présents dans les vallées, mais à la différence de l'époque, ils cohabitent très bien avec les catholiques. Comme on le voit par exemple sur cette affiche à Salza, signée par le syndic, par le maire, le pasteur et le curé. Torrepellitch est devenue la capitale mondiale des Vaudois, le siège de la table vaudoise. Une rue piétonne complète leur appartient. Temples, écoles, archives, bibliothèques. Les Vaudois gèrent des centres sociaux, des hôpitaux, des maisons de retraite. Le pasteur Henri Arnaud y est toujours très populaire, à la différence des Savoyards. Dans chaque village, le clocher du temple n'est pas loin de celui de l'église. À Praly, un nouveau temple a été construit en 1962, mais également une nouvelle église en 1968. On voit les trois clochers, l'ancien clocher qui a servi d'église pour les Savoyards, le temple et l'église catholique. Dans chaque village, les Vaudois ont réalisé de petits musées racontant leur vie comme celui de Praly. Dans l'ancienne école de la Balcy se trouve également le musée de la Glorieuse Rentrée. Ces plats, ils sont en talc. Il y a une mine de talc à Praly. Donc c'était découpé avec du talc cuit et après ça ils servent ça comme plat. Praly est devenue une charmante petite station de ski avec un seul télésiège de place au départ de la station. Rien à voir avec nos grandes stations savoyardes. Conclusion. En 1686, les Vaudois ont payé au prix fort la soumission de Victor-Amédée II au roi de France Louis XIV. Durant l'automne et l'hiver 1689-1690, ce sont les Savoyards qui, croyant avoir trouvé une nouvelle terre d'accueil, ont fait les frais de l'alliance de ce même Victor-Amédée II avec l'Europe protestante contre Louis XIV. Comme quoi la destinée de petites vallées, aussi insignifiante soit-elle, est soumise aux désirs et aux politiques des grandes puissances européennes. Après 7 ans de guerre, un accord est conclu entre la France et Victor-Amédée II. Ce dernier récupère Pignerol et la vallée de Cluson. Mais, suivant l'accord, il doit chasser tous les sujets français des vallées. 3 000 personnes, soit le tiers des habitants réformés, doivent encore s'exiler vers l'Allemagne en Wurtemberg. Là, ils établissent de véritables colonies vaudoises. Le pasteur Henri Arnaud a dû partir lui aussi, et il est encore le principal artisan de cette nouvelle installation. Dans son presbytère en Allemagne, on trouve aujourd'hui une importante bibliothèque vaudoise, dont le responsable est le docteur Albert Delange, un des historiens vaudois d'aujourd'hui. Voilà une nouvelle page de l'histoire de l'émigration savoyarde oubliée qui sort de l'ombre. Alors que jusqu'à présent, à cette époque, on ne connaissait quasiment que l'émigration marchande sous toutes ses formes, nous avons affaire là à une émigration essentiellement paysanne. Les Savoyards, très attachés à la terre, ont choisi en grand nombre, en quittant leur pays surpeuplé qui n'arrivait pas à nourrir sa population, de s'installer sur une nouvelle terre qu'ils pensaient disponible pour eux et leur famille, ainsi que pour les générations suivantes. Le sort en a décidé autrement. Mais cela montre que chaque fois qu'une occasion leur est donnée de pouvoir s'installer sur de nouvelles terres, les Savoyards ne la manquent pas. Il reste encore bien des questions sans réponse sur le séjour des Savoyards dans les vallées, ainsi que sur le devenir de ces centaines d'hommes, femmes et enfants qui ont fui les lieux. Peut-être faut-il poursuivre les recherches dans les villes et villages de la plaine du Pô et en bordure des vallées. S'il reste des documents suite après le désastre fait par les armées de Katina qui ont rasé et incendié une grande partie de la plaine du Pô en 1690-91. Voilà, merci de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long, je ne suis pas regardé le temps.
Bravo et merci Noël.